Je vous propose de lire deux textes ce matin qui seront lus par Madeleine, qui a accepté de m'aider avec ces deux textes, le psaume 121 tout d'abord, et puis ensuite le texte sur lequel portera la prédication de ce matin, qui est Luc 10, versets 25 à 37, la parabole du bon samaritain que vous reconnaîtrez tous.
Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et maintenant, c'est le chapitre 10 de Luc, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver : Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus lui dit : Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même.
Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Et nous chanterons debout le cantique numéro 258, strophes 1, 2 et 3. Du milieu de ce temple, chacun de nous, dans cette assemblée, se tourne vers toi, Seigneur. À travers toi, nous regardons le visage de Jésus. Nous reconnaissons dans cet homme ta présence, dans cet humble, la trace de ta venue, dans ce serviteur, la force de ta bonté, dans ce condamné, ta solidarité, dans ce ressuscité, ta manière d'ouvrir les routes. Ouvre-nous à ta parole. Amen.
Thank you.
Frères et sœurs, chers amis, je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous ce matin ces quelques très beaux textes pour commencer ce culte. D'abord ce texte de l'Ecclésiaste et puis le psaume 121, qui est un beau psaume de protection. Et puis la parabole du bon samaritain, évidemment, qui m'a tout particulièrement émue parce que c'est déjà cette parabole qu'avait lue notre Madeleine à 6 ans, à presque un peu plus de 6 ans, lors de notre mariage dans ce temple il y a quelques années. Heureuse aussi de m'attaquer à cette parabole, une des plus connues de l'Évangile, un texte qui a fait du terme de Samaritain presque un nom commun pour qualifier maintenant tous ceux qui viennent en aide aux autres. Que voit-on dans ce texte ? Un docteur de la loi, donc ceux qui font autorité chez les Juifs, mais vous le savez, ils cherchent toujours à piéger Jésus, qui pose une première question : que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus, qui bien sûr se méfie des questions des dignitaires juifs, répond par une autre question : qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? L'homme, qui est un casuiste, spécialiste des Écritures, lui répond en citant les deux premiers commandements : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui confirme : fais cela et tu vivras. Alors, l'histoire pourrait se terminer là, sans autre commentaire. Après tout, les commandements sont la base de toute la pratique religieuse chez les Juifs. Mais l'homme insiste avec cette question bien évidemment fondamentale, comme s'il existait une recette un peu plus précise, cette question : qui est mon prochain ? Alors, comme souvent, Jésus ne répond pas cette fois-ci par un commandement, mais par une mise en situation. La parabole du bon samaritain, c'est un peu, si vous me permettez l'expression, la tarte à la crème de l'Évangile. Un message ultra simple, d'un côté l'homme humble, gentil, spontané, et de l'autre des religieux puissants, indifférents au malheur de leurs semblables. Tout ça est un peu court, une petite fable morale que tout le monde peut comprendre et s'approprier. La preuve, ce bon samaritain qui a traversé les âges jusqu'à devenir, comme je le disais, un nom commun. Alors à cette question « qui est mon prochain ?» qui a taraudé l'humanité entière depuis Jésus, la réponse n'est évidemment pas si simple. D'abord parce que le prochain, on le voit apparaître dès le Deutéronome ou le Lévitique, il n'a pas le même sens bien sûr dans l'Évangile. André Gounel nous rappelle que la majorité des rabbins enseignaient que les prochains se limitaient aux Juifs. Et aussi parce que, d'évidence, et soyons honnêtes, on ne peut pas aimer tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui. Trop de perfection, trop d'efforts, trop d'irréalisme. Je ne veux pas aimer tout le monde. Je veux choisir, sélectionner mon prochain, mon frère, mon clan, aimer les miens par obligation, par coutume. Ce bon sens apparent, fort bien partagé, qui, sous prétexte de proximité, dresse les uns contre les autres parce qu'ils refusent l'universel. Rappelons à cet égard, et ce sera ma seule allusion politique aujourd'hui, une petite anecdote concernant Jean-Marie Le Pen qui avait rappelé cette comptine « J'aime mieux ma fille que ma nièce, j'aime mieux ma nièce que ma cousine et ma cousine que ma voisine, etc. etc. » Ça servait bien entendu à éloigner l'étranger de ses préoccupations. Qui est mon prochain ? Qui est notre prochain ? Mon frère, mon père, l'homme que je croise au coin de la rue ou dans la synagogue, est-il réellement proche ou vraiment lointain ? Me ressemble-t-il ou pas ? Partageons-nous la même race, la même religion, le même Dieu, le même peuple ? Existe-t-il en quelque sorte un portrait robot du prochain qui me permettrait de mettre en pratique un commandement de façon simple, comme le souhaitaient les Juifs du temps de Jésus ? Alors ce matin, je voudrais partager avec vous quelques réflexions que m'inspire la question du docteur de la loi et surtout, bien sûr, les réponses de Jésus. Et pour moi, cette question et cette réponse de Jésus en forme de parabole, c'est une leçon de vie. Une leçon de vie en 3 étapes principales que je voudrais aborder avec vous ce matin et qui auront chacune une réponse particulière à cette question. D'abord, une leçon de vie contre l'indifférence. Ensuite, une leçon de vie contre la peur. Et enfin, une leçon de vie pour nous pousser à l'action. Commençons d'abord par la leçon de vie contre l'indifférence. Le texte nous dit « un homme descendait de Jérusalem à Jéricho ». Il ne dit pas un juif ou un romain ou un docteur de la loi. Non, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Dans tout ce texte, comme vous l'avez noté, Jésus qualifie précisément tous les personnages. Un sacrificateur, un lévite, un samaritain. Mais l'homme, le blessé, lui, il reste un homme. Celui dont on ne dit rien, dont on ne sait rien. Ni s'il est riche, intelligent, juif, esclave, marchand, berger ou roi, c'est juste un homme. Et c'est la première chose importante qui fait de cette parabole un texte à portée réellement universelle. On pourrait remplacer un homme par n'importe qui ou quelqu'un, ce serait la même chose. En d'autres termes, ce n'est pas parce que cet homme fait partie de mon clan que je dois m'occuper de lui, c'est juste parce qu'il est blessé et parce que c'est un homme. Immédiatement après, Jésus raconte quelque chose de très simple. Le prochain, c'est celui dont on s'approche. Par ordre d'entrée en scène, donc, le sacrificateur et le lévite, ce sont un prêtre et en gros le servant d'un prêtre, qui passent sur leur chemin, voient le blessé, c'est bien précisé, ils le voient chacun à leur tour et continuent leur chemin. La route de Jérusalem à Jéricho, c'est bien connu, c'est une route dangereuse, on ne s'y attarde pas. Alors certes, les spécialistes nous disent qu'ils ont de bonnes raisons pour cela. Tous deux sont des dignitaires du culte juif, qui vont peut-être officier à leur arrivée à Jéricho, ou peut-être pas. La loi juive, en tout état de cause, leur interdit de pratiquer le culte si leurs mains sont souillées de sang. Il est donc probable qu'en un quart de seconde, ils ont remarqué le blessé et aussitôt évacué la possibilité de lui venir en aide, de peur de ne pas arriver à temps ou de ne pas respecter la loi. La fameuse loi qui est la colonne vertébrale de la religion juive. Ou peut-être tout simplement, ils n'y ont même pas réfléchi, mais qu'ils ont peut-être eu peur d'un guet-apens. Ils ont redouté d'être même attaqués. Et une minute après, ils ont oublié l'homme blessé, qui ne fait pas partie ni de leur vie, ni de leur cercle, et dont personne ne saura qu'ils ne l'ont pas aidé. Le Samaritain, à l'inverse, il passe, il voit, comme les deux autres, et il s'approche. Le texte dit, il fut ému de compassion et il s'approche. Cet homme ne lui est rien, manifestement, mais c'est un homme blessé qui a besoin de secours. Et à ce moment précis, il devient le prochain de cet homme. Les Juifs, comme vous le savez, méprisent les Samaritains, qu'ils considèrent comme des mécréants, capables même de s'adonner à des rites païens. L'accès au temple leur est refusé. Et bien que ce point soit controversé, ils se sont séparés des Juifs car je crois qu'ils ne supportaient pas la centralisation du pouvoir au temple. Alors je me hasarderai en disant peut-être que les Samaritains sont peut-être un peu les protestants des Juifs. En tout cas, ce jour-là, il faut donc que le héros de ce jour soit le Samaritain, considéré comme indigne du temple, mais pour lequel la transgression des règles va de soi lorsqu'il s'agit de sauver un homme. A-t-il eu peur de l'homme à terre ? A-t-il pensé qu'il allait être en retard à son rendez-vous ? A-t-il réfléchi au peu d'argent qui lui restait pour finir son voyage et qu'il lui faudrait peut-être dépenser pour cet homme qui ne lui est rien ? L'histoire nous montre un homme qui se lance immédiatement dans l'action, sans réfléchir, car l'urgence et les circonstances lui commandent un comportement de secouriste. Il ne regarde pas non plus s'il y a des témoins de son geste ou non. Combien de fois passons-nous à côté d'un homme qui pourrait être notre prochain ? Que nous le connaissions ou non, combien de fois par jour sommes-nous réellement disponibles, sans contrainte, pour quelqu'un ? Chacun d'entre nous partage son temps entre travail, famille, courses, activités et obligations diverses qui laissent peu de temps réellement disponible pour le reste. Le reste qui pourrait être écouté, regardé, observé, médité, être attentif à ceux qui en ont besoin. Combien de fois disons-nous « je n'ai pas le temps » ? À notre fils qui nous reproche de ne lui parler que de ses résultats scolaires. À notre collègue de bureau que nous avons vu pleurer plusieurs fois sans prendre une minute pour lui tendre la main. À notre conjoint qui a besoin de notre présence alors que nous regardons une série à la télé. Combien de fois sommes-nous passés dans l'indifférence auprès de cette famille qui dort sous un porche à deux rues de chez nous ? Le plus triste, c'est de constater que ce peu de temps disponible est souvent passé sur nos smartphones, sur les réseaux sociaux, happés par les relations virtuelles et les malheurs bien loin de nous. On ne regarde plus l'autre dans la rue, dans les transports, mais on a les yeux vrillés sur l'écran de son téléphone, en croyant avoir accès au monde, Et en fait, on se coupe du quotidien en se mettant soi-même en scène de façon totalement artificielle. Comment, dans ces conditions, permettre à l'autre de vous prendre comme prochain ? Première réponse, donc, pour cette première étape, le prochain ne se programme pas. Il est celui qui nous dérange. Il est celui qui bouleverse notre emploi du temps. Le caillou dans la chaussure, l'imprévu qui nous retarde. Rien ni personne ne peut l'inscrire dans notre agenda. Deuxième étape, c'est une leçon de vie contre la peur. Au temps de Jésus-Christ, le monde extérieur fait peur. Les guerres tribales sont incessantes. L'appartenance à un groupe est donc un gage apparent de sécurité. On a peur de la différence, du lointain, du hors-clan. Et passer au-delà de son premier cercle, qui est représenté par la famille et les proches, c'est quasiment impossible. Et encore aujourd'hui, ça n'est pas tellement différent, on a peur du différent, qu'il soit proche ou lointain. Bien sûr, les clans ne sont plus du tout les mêmes. On se crée de nouvelles tribus, sociales, professionnelles, religieuses encore. On se reconnaît entre soi, sans se risquer vers l'extérieur. Je prends juste un exemple. L'avocat français rencontre des avocats américains ou chinois, avec lesquels il s'est connecté sur LinkedIn. Il se retrouve dans les mêmes restaurants, fréquentés par les mêmes avocats, et, ou les banquiers, qu'ils connaissent tous dans les grandes villes de la Terre, et ils choisissent les parrains de leurs enfants parmi les anciens de leur promo de grande école. Mais lorsque le même avocat français sort de chez lui, jamais il ne lui passerait par l'idée de s'asseoir à côté du SDF qui dort devant sa porte, ou même de lui proposer un café. Encore moins d'engager la conversation avec cette bande de jeunes de banlieue qui lui casse les oreilles avec sa musique et sa révolte. Bref, nous n'avons aucune chance, aujourd'hui plus encore qu'hier, de rencontrer, de s'approcher du différent. Plus encore que la différence, nous ressentons vite une menace avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Les mendiants, les Roms, l'immigré, le handicapé dérangeant, les jeunes, les vieux, les tondus, les chevelus, les tatoués, etc., etc., etc. Jésus, au contraire, il s'intéresse à tous les marginaux, les hors nomenclature, les impurs, pour leur rendre leur dignité. Zachée, le collecteur d'impôts, la Samaritaine, qui lui donne de l'eau et qui est elle-même étonnée qu'il s'approche d'elle, le serviteur du centurion romain, la femme adultère, la femme qui saigne et qui est souillée, bref, autant de laissés pour compte qui ne sont jamais regardés, jamais considérés par les Juifs. C'est une vraie leçon, car c'est de loin le plus difficile, autant de la Bible comme aujourd'hui. Dialoguer, essayer de comprendre, éventuellement construire avec les ennemis d'avant, avec les inconnus différents, c'est ce qui fait de nous les prochains, qui cassent les barrières et qui apaisent les tensions. Deuxième réponse, saisissante, celle du philosophe Ivan Illich, qui est mort en 2002, et qui dit « Le Samaritain, c'est un Palestinien d'aujourd'hui qui viendrait, après la bataille, au secours d'un soldat israélien blessé, alors que sa communauté lui commande de le tuer. » Dernière étape, la troisième, une leçon de vie pour nous pousser à l'action. Dans cette parabole, Jésus opère un renversement spectaculaire. Pour lui, en fait, le prochain n'est pas le blessé, mais le Samaritain. Il fait comprendre que la question du docteur de la loi est mal posée. Ainsi formulée, « Qui est mon prochain ?», on se perd dans la théorie, sans jamais agir. Mais lorsqu'on dit, comme Jésus, « De qui a-t-il été le prochain ?»« De qui suis-je le prochain ?», on est déjà au travail. Aimer, c'est agir, sans attendre, sans se poser des tas de questions ou évoquer les interdits, les lois, les scrupules, sans regarder autour de soi et sans avoir peur. Aimer, c'est relever le rideau de fer et recueillir les rescapés du Bataclan pendant la nuit du 15 novembre 2015. C'est porter secours à cet homme qui souffre dans la rue. C'est écouter ses enfants et ses femmes victimes de violences et les protéger. C'est soigner les malades, former les handicapés pour leur offrir une vie plus digne. Bref, c'est devenir le prochain de ceux qui en ont besoin. Pas tous, bien sûr, pas tous. mais ce que Dieu met sur notre route. Bien sûr, on ne peut dire que ça n'est pas notre problème, que l'État peut s'en occuper, les associations, les professionnels, les pasteurs. Jésus nous fait comprendre que aimer son prochain, ça n'est pas fulminer contre le manque de sécurité sur la route entre Jérusalem et Jéricho. Ça n'est pas non plus appeler les pompiers. C'est agir immédiatement pour sauver l'homme qui est sur cette route. C'est bien cela qu'il nous dit. L'amour agit. Le prochain dévie sa propre route pour emprunter celle de l'autre, ne serait-ce que provisoirement. Il donne à l'autre sa propre place et adopte la sienne sans attendre quoi que ce soit en échange. Tout de suite et à court terme. Et puis ensuite, il revient tranquillement à ses propres obligations lorsque la situation est réglée. D'ailleurs, l'injonction n'est pas que personnelle, elle débouche aussi sur des attitudes collectives. C'est en effet une tradition ancienne en Europe. Les églises et leurs représentants s'occupent autant des pauvres que de Dieu. À la fin du XIXe siècle, une bascule s'opère. Avec la séparation de l'Église et de l'État, les rôles évoluent. D'un côté, le mouvement social va déboucher sur les mutuelles, première construction autonome de la solidarité au sein de la classe ouvrière. Mais de l'autre, ce que l'on a appelé le christianisme social se développe. C'est très bien de prier Dieu, disent ces chrétiens sociaux, mais ce serait encore mieux de s'occuper de nos frères humains en même temps. On trouve cette tendance chez Marc Sangnier, chez les catholiques, celui qui a, je crois, fondé les auberges de jeunesse, et puis chez les protestants, Wilfried Monod et Charles Wagner, que nous connaissons bien, qui s'engagent de manière très active pour les personnes en grande difficulté. Vous connaissez la clairière à l'oratoire qui a permis d'aider des milliers de familles à surmonter leurs difficultés matérielles dans le respect de la dignité humaine et qui a en particulier sauvé de la déportation une soixantaine d'enfants juifs. Pauvreté, exclusion, délinquance contre lesquelles Charles Wagner s'est également battu toute sa vie dans nos locaux, ici, dans les étages du foyer de l'âme, défendant ainsi cette idée du christianisme social, un christianisme engagé dans la vie de nos semblables, pour secourir les hommes que nous côtoyons tous les jours et qui n'ont pas la même chance que nous. Alors, la vraie question que l'on peut se poser aujourd'hui autour de l'action sociale, c'est: est-ce qu'on a encore besoin de Jésus-Christ pour ça? En vérité, en particulier depuis la fin du XXe siècle, et même si nous assistons à un certain renouveau de l'intégrisme dans bien des pays, on voit globalement dans les pays développés un certain déclin de la pratique religieuse et un relais pris par la société civile. Il y a aujourd'hui bien des associations qui se créent sans aucune obédience chrétienne ou religieuse et qui font un travail absolument remarquable, très très collectif, sur le terrain. Je voudrais vous citer deux d'entre elles que j'ai trouvées récemment et qui vraiment forcent l'admiration. La première, c'est une association qui s'appelle Singa et qui met en relation des jeunes immigrés en attente de permis de séjour et des familles qui peuvent les accueillir chez eux pendant quelques jours. Une sorte de Airbnb pour les réfugiés, qui compte là aussi des milliers de volontaires. Je crois qu'il y a 8000 volontaires à Paris qui s'inscrivent pour rendre ce service. Deuxième association, le Carillon, qui permet aux sans-abri de plusieurs arrondissements de Paris de trouver chez des commerçants identifiés, qui se sont là aussi portés volontaires, des services basiques qui leur facilitent grandement la vie. Utiliser des toilettes, partager un café, avoir une connexion Wi-Fi pendant quelques temps, avoir accès à une trousse de médicaments ou juste un brin de conversation pendant quelques minutes. Eh bien, au fond, je suis persuadée que Jésus-Christ ne fait aucune différence entre le prochain qui agit au nom de Dieu ou pas. Exactement comme il l'explique avec le Samaritain. Et je pense que l'important, c'est qu'aujourd'hui encore, il se reconnaîtrait dans ces associations, qu'elles soient d'origine religieuse ou non. Entre la foi et l'amour du prochain, il ne fait aucune hiérarchie, mais démontre à chaque instant à quel point l'un conduit à l'autre et inversement. Et donc, ça m'amène à ma troisième réponse que j'ai trouvée dans un livre dont je vous parlerai, que je vous citerai tout à l'heure. C'est une citation de Wilfried Monod qui dit « Mieux vaudrait avoir vécu sans religion que d'avoir vécu sans amour. Mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. » C'était donc ma troisième réponse. Au terme de ces trois points, je pense que la leçon de Jésus est claire. Le prochain, Ce n'est pas moi qui le choisis, mais c'est celui qui me choisit. C'est celui qui fait de moi son prochain, qui se fait si proche que je deviens son prochain. Celui qui est là à un instant T et que Dieu a mis sur mon chemin. Et celui dont je m'approche. Il est impossible de savoir par avance qui le sera et qui ne le sera pas. On n'est pas le samaritain de tout le monde et on n'est pas le samaritain tout le temps. Jésus sait, et il nous le montre dans bien des passages de l'Évangile, que les hommes sont faillibles et que trop souvent l'indifférence ou la peur l'emportent sur tout autre sentiment humain. Prenez par exemple, si vous pensez aux disciples juste avant la crucifixion. Sur les 12, l'un l'a renié, l'autre l'a trahi, et sur les 10 qui restent, pas un seul ne l'a suivi. Aucun n'a été en cet instant réellement le prochain de Jésus. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il les ait condamnés. Aucun passage n'en fait réellement mention. Mais je crois que Jésus attend de nous un geste, un petit mouvement supplémentaire et spontané qu'on ne ferait peut-être pas sans lui. Sommes-nous sacrificateurs ou lévites, ou samaritains, ou tous à la fois, selon les moments? Jésus ne condamne pas l'un ou l'autre. Ce qui compte, au fond, c'est que l'un d'entre eux sauve le blessé. Être le prochain de quelqu'un au bon moment, peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Prendre conscience que c'est difficile, mais qu'on va essayer. C'est le mendiant auquel on ne donne rien qui fait qu'on donne au suivant qu'on rencontre. L'image du Samaritain, pour moi, c'est l'un des plus beaux cadeaux que Jésus nous ait fait, car elle nous permet de rester éveillés, de rester disponibles, d'être prêts à agir. Et l'autre cadeau que je retiendrai, c'est que ce commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » soit écrit au futur, ni à l'impératif, ni au présent. Ce futur qui est à la fois une proposition et une promesse. Amen.